Retour vers le passé, une émission proposée par tous les élèves de 5e du collège de Gémozac. Suivez les aventures historiques de nos héros sur les routes de Pau.
Trois élèves du collège de Gémozac, Johan, Isabelle et Guillaume, tombent dans le couloir du temps, qui les mène à une galerie bouchée par un livre figé dans la pierre. Une grille sépare les deux mondes. Avec un bruit de grincement de dents, ils la font tourner sur ses gonds. Elle résiste un peu, bien que très lourde, puis finit par céder. Le portable d'Isabelle s'éteint subitement, au moment même où celui de Johan clignote. Quant à celui de Guillaume, il ne cesse de vibrer. L'écran s'éclaire et indique la date du 10 mai 1179. Ils croisent un vieux prisonnier qui leur fait peur, arrive dans l'écurie du château de Pont. Là, ils font la connaissance d'Enguerrand, un jeune page qui se comporte comme s'il les connaissait depuis toujours. C'est l'effervescence au château puisque Richard Cœur de Lion met fin à 4 mois de siège. Lors de la messe de Noël, l'abbesse Hildegarde de Bingen tente pourtant de le prévenir, mais rien n'y fait. Ponté d'Hélène Déesse.
Après avoir eu cette vision, Hildegarde se dirige vers Richard Cœur de Lion et est bloquée par les gardes qui le protègent. Elle négocie avec eux et peut enfin lui parler. Bien sûr, avant de s'adresser à lui, elle doit lui faire une révérence.
« Ô grand seigneur Richard, puis-je vous parler d'une chose très importante tout droit venue du ciel ?»«
Oui, je vous accorde 5 minutes, mais point plus. »«
Je vous remercie, duc. Alors que j'étais en train de revoir mon champ, une lumière s'est déposée sur mon visage et m'a montré une image de pont. Vous avez, semble-t-il, l'intention d'anéantir cette cité et de donner une leçon à Geoffroy, son sire. »«
Oui, et donc, que va-t-il se passer si je détruis cette ville ?»
Cette cité va jouer un rôle déterminant lors d'une guerre entre les deux royaumes, anglais et français. Donc il ne faut point la rayer de la carte. Si vous passez outre la volonté divine, une malédiction s'abattra sur vous. Vous régnerez peu et sans gloire et vous vous ferez voler votre couronne et votre royaume.
J'en ai rien à faire de toutes ces balivernes, superstitions, malédictions. Cette forteresse, quoi qu'il en soit, sera rasée et détruite, jusqu'au dernier bâtiment. Bien que le Seigneur Dieu soit tout-puissant et règne sur tous les hommes, je suis assez fort pour me conduire moi-même sans que quiconque m'indique comment agir. Que Dieu gouverne le ciel, mais qu'il me laisse le soin de diriger mon duché. Geoffroy a failli à ses vœux vassaliques, il doit être puni.
La colère est mauvaise conseillère, Richard, et du Notre Père vous aura prévenu. Sachez écouter et vous sauverez votre âme ici-bas et là-haut. Vous cédez à votre tempérament et la malédiction s'accomplira. Il sera temps pour vous alors de prier et de devenir raisonnable, pieux et affranchi de vos passions.
Ces paroles, prononcées sur un ton doux et pacificateur, exaspèrent encore davantage notre ennemi fougueux, qui a bien du mal à rester en place devant l'office. Il se dit qu'Hildegarde, pour une fois, se trompe, puisque c'est son frère, Henri, qu'il doit régner sur l'Angleterre à la mort de leur père, et non lui. Lui, il est le fils chéri, le préféré de sa mère, Aliénor. À l'évocation de ce nom, que lui aussi vénère, Richard se calme et inspire. C'est sa mère qui lui a confié la gouvernance de cette belle région française, le duché d'Aquitaine. Elle la tient elle-même de son père, et rien ni personne ne lui enlèvera, lui vivant. Qu'elle soit reine de France ou d'Angleterre, sa mère est propriétaire légitime de ses terres. Elle les aime sincèrement. D'ailleurs, elle les a choisis pour y vivre en exil, loin de son insupportable époux anglais. Lui aussi les aime. C'est d'elle qu'il puise sa force, c'est là qu'il vit. Entre son père et sa mère, il a choisi son camp. Jamais il n'ira vivre en Angleterre, la terre de son père. Il serre les poings et les dents. Ce Geoffroy doit payer pour avoir voulu se rapprocher du roi de France et lui ôter son Aquitaine. Sa colère est légitime et son châtiment juste. Il en est certain. Il veut s'en convaincre. Maintenant, mes amis, vous savez comme moi que ce Richard a décidé puisqu'aujourd'hui les cloches s'affolent. Elles annoncent la fin du siège. Je le crains. Richard vient de détruire Taillebourg et il ne veut plus attendre pour nous faire courir à notre perte. Permettez que je rejoigne Monseigneur.
Sur ces paroles et explications sibyllines, il laisse nos 3 collégiens, pantois et interdits.
Alors là, que diable allons-nous nous faire dans cette galère? Vous avez compris, vous? Moi, je suis perdu. Ce gars nous appelle amis. Il connaît nos noms.
Oui, et en même temps, il nous guide dans notre voyage temporel. Il nous a fait un sacré cours d'histoire. Tu as raison, Johan. Que faisons-nous ici?
J'avoue que je suis dépassé aussi. On se croirait dans Assassin's Creed. Ce Sauf que là, c'est pas virtuel. Et vu tous les gens qui courent autour de nous et le bruit des trébuchés, je suis d'avis à nous protéger. Et vite fait.
Ses deux compagnons acquiescent et ils courent se réfugier dans l'écurie pour assister de loin à la destruction du château. Ils voient partir Timor, le destrier de Geoffroy, vers l'ennemi et frissonnent. Les animaux aussi ont senti le danger. De toute manière, Geoffroy III a de grandes réserves de nourriture et n'est pas décidé à se rendre, tout comme Geoffroy de Rancon, seigneur de Taillebourg, assiégé lui aussi dans les mêmes conditions. Alors, Théobald ordonne aux 2500 sapeurs de creuser un tunnel allant de la forêt des Talas pour arriver dans la cour de la forteresse. Ils y passent 3 semaines, construisant une galerie renforcée par un coffrage en bois qu'ils enflammeront pour que la muraille du château s'écroule. Après réflexion, ils choisissent d'attaquer de nuit. Ce soir-là, la chapelle du château sonne 12 fois. Il est enfin minuit, le chef et 19 autres hommes s'infiltrent dans le tunnel, puis ressortent dans la cour du château, pris au piège. Théobald prend soin de remettre à sa place le tonneau qui cache l'entrée du tunnel. Par chance, il n'y a aucun garde et la lune n'en est qu'à son premier quart. Il se sépare en 2 groupes de 10 hommes chacun. Le premier doit accéder à la tour sud, dans laquelle il y a le cellier où est rangée la nourriture. Le deuxième va essayer de voler tout l'argent du seigneur. C'est avec ce dernier que Théobald agit. La première équipe longe les murs puis monte les escaliers de la tour. Une fois arrivés en haut, les hommes voient un garde qui regarde la lune. Un nuage la voile légèrement, jouant à cache-cache au gré du vent. Il en oublie son rôle, donner l'alerte en cas d'attaque de l'ennemi. 2 des 10 hommes en profitent. Ils bondissent de la cachette où ils étaient à l'affût, le neutralisent en lui bloquant les bras. Le premier le bâillonne d'une main pour étouffer le cri de surprise, tandis que le second le poignarde d'un coup parfaitement ajusté dans le cœur. Le corps du pontois s'affaisse sans bruit, mollement. Pour ne pas éveiller les soupçons, les attaquants le balancent par-dessus les remparts et le garde atterrit dans les douves sèches. Les 2 hommes qui ont tué le veilleur reviennent dans leur groupe. Une fois arrivés devant la porte du cellier, ils la forcent et volent toute la nourriture, pain, poisson notamment, et quelques bons tonneaux de vin. Pendant ce temps, le second groupe ne perd pas de temps non plus. Ils montent les escaliers du donjon. Un des soldats demande au sénéchal de Geoffroy III les clés du coffre-fort sous prétexte de faire les comptes de l'argent accumulé au fil du temps par le seigneur. La pièce étant seulement éclairée par une faible torche, le garde le prend donc pour le chambellan à cause de l'obscurité environnante et lui donne les clés du coffre-fort. Le partisan anglais s'en va en redescendant les escaliers, puis il rejoint ses compagnons. Ils vont voler l'argent tous ensemble, puis rejoignent l'autre groupe au point de rendez-vous devant l'entrée du tunnel. Tout aussi silencieusement et rapidement, ils repartent au campement en oubliant de remettre le tonneau pour cacher l'entrée, sous l'effet de la joie. Une fois à leur tente, ils sont félicités par Théobald. À l'aube, le seigneur de Pont se lève comme tous les jours à 7 heures, rend grâce à Dieu, puis salue son sénéchal qui lui annonce qu'il a prêté les clés du coffre-fort à son chambellan pendant la nuit. Le seigneur, intrigué par cette annonce, lui demande pourquoi il lui a donné les clés sans sa permission. Celui-ci lui répond qu'il les lui a données car l'intendant voulait faire les comptes de l'argent accumulé. Geoffroy III descend les escaliers du donjon en se demandant quelle mouche l'a piqué en pleine nuit. Puis, vers 10 heures, il traverse la cour pour aller dîner. Il se régale déjà à l'idée de ce repas composé de pain avec du miel et du jus de pomme. Quand le cuisinier voit son seigneur arriver affamé alors que ses réserves ont été pillées dans la nuit, il se précipite dans l'arrière-cuisine pour s'y cacher. Le seigneur rentre et l'appelle, mais celui-ci reste dans sa cachette, car il a peur que Geoffroy ne croie qu'il garde la nourriture pour lui tout seul. Comme le cuisinier n'arrive pas, il se rend dans l'arrière-cuisine et le trouve. Il lui demande
« Que se passe-t-il, maître Queux? Pourquoi ne m'apportez-vous pas mon dîner ?»«
Il n'y a plus de nourriture, mais ne me frappez pas. Je vous jure, c'est pas moi qui ai fait ça. Je n'y suis pour rien. » »«
Je veux bien te croire, mais qui me dit que tu n'as pas tout gardé pour toi, comme un égoïste? En attendant, je n'ai toujours pas mon dîner. »
Pour en avoir le cœur net, il va vérifier dans le cellier. Il n'y a plus rien, à part 3 miettes de pain. Il est choqué, puis fait fouiller tout le château, mais il n'y a vraiment plus de nourriture. Et Geoffroy commence alors à s'inquiéter. Le seigneur rassemble tout son monde pour annoncer cette terrible nouvelle. Il essaye de trouver une solution pour s'en sortir avec les habitants, puis, un petit moment plus tard, il discute avec les nobles quand l'un d'eux s'écrie.
Sire, je crois avoir trouvé une solution.
Laquelle ?
J'ai trouvé un tunnel.
Prouvez-le-moi, je ne vous crois pas.
Venez voir par vos propres yeux, il est juste à côté de la tour Est.
Le seigneur va voir, suivi de tous les habitants du château. À sa grande surprise, Pierre a raison. L'ennemi a oublié de refermer l'entrée avec un tonneau. Tout le monde s'engouffre dans la potentielle sortie. Une fois arrivé au bout du tunnel, Ils se retrouvent dans la forêt des Talas, derrière les palissades, au plus près de l'ennemi. Ils prennent garde de ne pas se faire remarquer, car ils sont sans armes. Ils se regroupent et décident d'un plan très rapidement. La stratégie consiste en ce que la mesnie de Geoffroy III s'enfuit par la forêt dès que possible, pendant que les 7500 soldats français attaquent l'ennemi en revers. Aussitôt dit, aussitôt fait, les habitants sont en sécurité et l'armée peut les attaquer. Pendant ce temps, dans le camp ennemi, Théobald et Richard, qui s'étaient rendus sur place, décident de détruire le château de Pont, car ce siège dure depuis trop longtemps à leur goût et le duc d'Aquitaine doit en finir avec cette forteresse et son seigneur infidèle. Pour pouvoir la détruire, Richard demande de monter et d'assembler les pièces de 3 pierrières, de 3 trébuchets qui tirent de grosses pierres circulaires, de 2 mangonneaux, d'un beffroi pour rentrer dans le château et le détruire de l'intérieur, et des arbalètes qui tirent plusieurs flèches de feu. Puis, il lance le signal d'attaque pour l'après-midi. Il vise d'abord le donjon avec les trébuchets qui ont chacun 5 hommes. 5 esclaves en remontent le mécanisme et les 5000 archers lancent des flèches de feu 3 par 3. 7 tirs doivent être réalisés pour régler les machines de guerre, puis les vassaux détruisent le reste du château avec les armes qu'ils ont construites auparavant. Enfin, ils mettent le feu au tunnel. Seuls l'écurie et la chapelle sont épargnés. Une fois l'assaut terminé et le château détruit, ils se réunissent et commencent à ranger leur matériel pour pouvoir le ramener en Angleterre, quand, tout à coup, les chevaliers français les attaquent par surprise. Une bataille sanglante et sans pitié commence donc. Théobald et Richard Cœur de Lion, pris par la haine et la rage de la trahison, tuent à eux deux la moitié des soldats, pendant que le reste de Lost tue l'autre moitié des soldats français. Malgré sa vaillance, lors d'un corps à corps, Théobald succombe sous les coups de Vaillante, l'épée de Geoffroy qui lui tranche la tête. Les Anglais ont finalement gagné l'affrontement, mais il ne leur reste que 250 soldats sur les 10 000 présents le premier jour. Ils rentrent en Angleterre et font une fête pour célébrer leur victoire. Richard, lui, médite sur les circonstances de son acte. Il se souvient des paroles de Hildegarde, qui, bien qu'il ne l'avouera jamais, l'ont ébranlé. Il comprend également qu'il a perdu une place forte idéalement située et qu'il aurait dû, une fois de plus, ne pas se laisser emporter par la colère et analyser davantage la situation. Enguerrand va rejoindre ses amis, le calme retrouvé.
« Je vous cherchais. Quelle joie de vous savoir sain et sauf. »«
Waouh ! Je n'avais jamais assisté à une scène aussi violente. C'est impressionnant. Heureusement que le château était vidé de presque tous ses habitants. »«
Oui, j'ai eu peur aussi. »
Guillaume s'approche d'Isabelle discrètement et lui touche le bras pour la rassurer.
Je pense que Geoffroy va regretter ses choix et rendre hommage au duc d'Aquitaine rapidement.
Il a raison en effet. Geoffroy, face à son château détruit, a eu peur pour ses vassaux qu'il ne voulait pourtant pas mener au combat, et encore moins à la mort, et se dit qu'il faut au plus vite renouer l'alliance avec le duc d'Aquitaine. Il a la preuve à présent du tempérament incontrôlable de cet homme et veut renouveler au plus vite son hommage à cet ennemi dangereux. Après tout, Paris est bien loin et le roi de France ne se soucie guère de lui. L'a-t-il seulement aidé ? Il envoie son héros à l'ennemi d'hier avec un message de pardon et de paix. Advienne que pourra. Ce qu'il ignore, c'est que Richard, on l'a dit, s'en veut d'avoir cédé à son caractère. Geoffroy est un homme bien moins belliqueux que ses ancêtres. Surtout, il occupe une place stratégique entre Bordeaux et Poitiers. Avoir détruit sa forteresse, c'est également avoir affaibli cette position importante. Il le comprend un peu tard et profite de l'hommage rendu à nouveau pour lui proposer un marché.
Je ne reviens jamais sur mes erreurs, mais tu avais besoin d'une bonne leçon. Geoffroy, j'espère que dorénavant tu verras où est ton intérêt avant d'affronter ton seigneur. N'oublie pas que je suis le seul à être ton maître, le seul à qui tu dois obéissance et fidélité. Tu es assez puissant et assez sage toi-même pour évaluer correctement dans quel conflit t'engager. Aussi, puisque je vois combien tu es sincère, je veux te montrer que je ne suis pas rancunier. Je vais t'aider à rebâtir ce que ma foudre a mis au sol, mais il y a un autre prix à payer. L'hymen calmera tes ardeurs de rébellion. J'ordonne que tu épouses Agnès de Matha, cette jeune veuve dont le père Geoffroy Martel est un ami.
Geoffroy ne peut que s'incliner et obtempérer. Les noces auront lieu dès la fin des travaux de reconstruction. De leur côté, les 3 collégiens aident Enguerrand dans ses travaux de nettoyage. Isabelle, qui fait de l'équitation le mercredi après-midi après les cours, se sent en sécurité avec les animaux et elle est la plus active. Dans le box de Timor, elle trouve 2 papiers, l'un coincé sous la selle, l'autre dans la paille. Le premier est écrit en ancien français, mais elle parvient à lire ce qui semble être une page du journal intime de Geoffroy.
« Je suis arrivée au château de Richard Cœur de Lion avec une forte angoisse pour la cérémonie d'hommage.
Dans la cour, il y avait deux colonnes de musiciens qui jouaient de la trompette pour mon arrivée. En avançant dans l'allée centrale, des chevaliers se tenaient debout et plus droits que des piquets et me coupaient le passage avec des lances décorées d'un petit drapeau coloré et de pierres précieuses, probablement ramenées de Jérusalem. Mon cœur battait plus vite que des ailes de libellule. Quand je me suis agenouillé face à mon suzerain, celui-ci a pris mes mains extrêmement moites et les tenant dans les siennes, il me demanda.
« Vous, Geoffroy III, sire de Pont, mon vieil ami, je vous confie des terres en ce jour et vous demande avec tout le respect et la confiance que je vous dois. Voulez-vous faire partie de mes hommes et être mon vassal ?»
À quoi je répondis immédiatement. « Je le veux, en signe de fidélité, nous nous sommes embrassés. » Il m'offrit ensuite ses terres et avec la plus belle grande fierté, je le remerciai du don de ses fiefs et de sa confiance.
Le second est bien plus étrange. Il s'agit d'un bout de dessin déchiré.
Les motifs semblent faits en tapisserie.
Se dit Isabelle qui a déjà vu sa grand-mère broder sur un support à peu près identique. Deux groupes d'hommes sont représentés, l'un à gauche qui lève le doigt vers le ciel, l'autre un homme qui court vers celui qui a une couronne sur la tête, au-dessus duquel est brodé un pompon tenu avec des cordes à des sortes de flammes. Une fusée couchée ? Elle se dirige vers la droite, passe au-dessus de Harold, le personnage couronné. Enfin, au-dessus du premier groupe est brodé Isti Mirante Stella. Isabelle, intriguée, appelle les garçons pour leur faire partager ses découvertes.
« Hé, regardez ce que j'ai trouvé !»
leur dit-elle en brandissant une feuille. Enguerrand, le premier arrive et pâlit.
« C'est l'écriture de Sir Geoffroy ? Que raconte-t-il ? » ?
« Un moment intime, je pense, mais pas un grand secret. »
lui répond-elle en lui tendant le papier. Johan et Guillaume se penchent par-dessus l'épaule du jeune garçon qui ose à peine déchiffrer le texte, puis il respire.
« Oui, tu as raison. Je vais cependant le lui rendre tout de suite. Il m'en saura gré, j'espère. Et ainsi, il me nommera écuyer plus rapidement. »
Il joint le geste à la parole et disparaît. Dès qu'il n'est plus visible, Isabelle sort de sa poche le second papier. Le portable d'Isabelle s'allume, puis s'éteint subitement, au moment même où celui de Johan clignote. Quant à celui de Guillaume, il ne cesse de vibrer. Les trois enfants se regardent d'un air plus éloquent que des paroles.
C'est la tapisserie de Bayeux. Elle représente la comète de Halley qui traverse le ciel le jour du couronnement de Harold en 1066. C'est un mauvais présage.
Cela me rappelle la malédiction de Richard.
Le téléphone de Guillaume cesse enfin de vibrer. Machinalement, il le prend en main. L'écran s'éclaire et indique la date, 2 août 1180.
Les enfants comprennent que leur téléphone sert à voyager. Mais quel rôle joue l'objet qu'ils trouvent ? Ils restent certes sensiblement à la même époque, mais comment échapper à ce voyage insensé ? Pourquoi Enguerrand semble-t-il les connaître ? Et cette nouvelle date, est-elle encore une malédiction ?
Isabelle, Guillaume et Johan vous disent à demain même heure
pour la suite de Retour vers le passé sur Radio Pont.